retrouver en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les rendez-vous de l'économie du territoire qui sont consacrés aujourd'hui à la société S2I Informatique et son dirigeant Franck Bougard. Bonjour Franck.
Eh bien bonjour.
Merci d'avoir accepté d'être notre invité de ce jour. Donc nous allons parler d'informatique, de vente et de réparation de matériel informatique. Je vais vous laisser nous présenter S2I Informatique s'il vous plaît.
Oui, alors la société S2I Informatique a été créée en 2008. Donc, elle a ouvert en juillet 2008 à Guérigny.
Oui, dans la Nièvre.
Dans la Nièvre, tout à fait. Et je suis resté quasiment jusqu'à l'année dernière, en fait. Et puis, au bout de tant d'années à Guérigny, j'ai décidé, en fait, le petit challenge, en fait, c'était c'est pas vraiment de grossir, mais de choisir, en fait, d'avoir un autre public aussi, d'en avoir un petit peu plus. Un magasin plus grand où je pouvais un petit peu plus proposer tout ce que je pouvais pas vraiment faire à Guérigny, quoi.
D'accord. Parce qu'à Guérigny, vous aviez quand même une boutique.
Ah oui, j'avais une boutique.
Mais qui était plus petite.
Qui était beaucoup plus petite.
Et alors maintenant, vous êtes installé où ?
Donc là, je suis au 1 place Guy Coquille, tout en bas de la place Guy Coquille.
Tout en bas de la place Guy Coquille.
Ouais, à l'angle de la rue Saint-Étienne et de la rue du Fer.
Très bien. Alors, votre activité informatique, c'est la vente et la réparation de matériel informatique. Si vous pouvez nous expliquer un petit peu plus précisément ce que vous faites, ce que vous proposez.
Alors, tout ce qui vente, donc, ce sera tout ce qui sera PC, PC de bureau, PC portable, tout ce qui sera périphérique, les connectiques, les imprimantes, les choses comme ça. Tous les accessoires aussi qui vont avec les ordinateurs. Tout ce qui est gaming aussi, parce que je fais beaucoup de gaming.
D'accord.
Donc tout ce qui sera composants, les claviers, les casques, les souris, enfin tout ce genre-là. Et puis au niveau informatique, en fait, c'est tout ce qui sera PC et Mac. Donc je fais les deux. Je vends en neuf et je fais aussi pas mal de reconditionnés.
Beaucoup de reconditionnés.
Ouais, surtout sur Apple aussi, parce qu'il y a beaucoup de demandes.
Oui, c'est quand même un marché qui se développe, le reconditionné en matériel informatique.
Quand on a un bon reconditionneur, ouais.
Quand on a un bon reconditionneur. Oui, ça c'est intéressant de l'expliquer à nos auditeurs, parce que parfois, je pense qu'on hésite. Le matériel informatique, aujourd'hui, c'est quand même un peu sensible quand on s'en sert pour son travail. Et pas que d'ailleurs, quand on voit tous les risques de se faire pirater et autres, on peut avoir quelques craintes à aller sur du matériel reconditionné en ayant peur de ne pas avoir forcément la même qualité. Vous disiez, il faut un bon reconditionneur. C'est quoi un bon reconditionneur ?
Alors, le bon reconditionneur, en fait, alors les reconditionneurs, en fait, moi, avec qui je travaille, donc, c'est des rachats de parcs informatiques à des sociétés.
D'accord.
Donc, déjà, ça va être que des gammes pro, quasiment, oui. Du Dell, du HP, du Lenovo, du Mac aussi, forcément. Et en fait, ils sont complètement révisés. Toutes les pièces qui doivent être changées sont changées et les systèmes d'exploitation sont réinstallés propres. Quoi. Donc,
donc,
de toute façon, déjà, il n'y a aucun risque déjà de retrouver les données de la société précédente.
C'est très bête, hein, mais ça a son importance.
Oui. Et puis, puis après, c'est vrai que c'est que du matériel en gamme pro et c'est hyper solide déjà. Quoi. Même si c'est des machines qui ont 4-5 ans, elles peuvent encore largement faire des années. Quoi.
D'accord, donc ça c'est important aussi de le signaler. Merci de nous avoir apporté cette précision. Alors, vous faites de la vente, mais je crois que vous n'êtes pas qu'un revendeur, on va dire, de matériel informatique. Vous faites de l'assemblage aussi.
Oui, donc tous les PC de bureau, en fait, enfin tout ce qui est PC de bureau et forcément gaming, c'est que de l'assemblage. Mis à part le reconditionné, mais tout ce que je vends en neuf, c'est que de l'assemblage. En fait, c'est moi qui les cachette les composants, qui choisis par rapport à. Enfin, je conseille le client par rapport à ce que lui veut faire. Mm-hmm. Et pas la peine de faire une machine démesurée pour aller faire de l'internet, quoi. Donc, ça sert à rien. De...
On n'a pas besoin d'avoir une Ferrari juste pour aller surfer sur les réseaux, c'est ça ?
Il y en a qui aiment, mais voilà. Bon, après, je leur dis, après, c'est leur porte-monnaie, ils font ce qu'ils veulent. mais c'est bien d'avoir quand même ce conseil-là.
Donc, en fait, si je comprends bien, on a d'un côté ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire les PC oui. de bureau ou portable, standard.
Oui.
Et en fonction de son besoin, on peut venir vous voir et faire constituer, assembler l'ordinateur dont on a besoin.
Oui, tout à fait.
En fait, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Et je suppose qu'en termes de prix, si on a peu de besoins, vous disiez tout à l'heure, ça n'a rien d'avoir une machine hyper performante si on va faire que de la navigation sur Internet. On s'y retrouve aussi au niveau du prix si on est vraiment dans le juste besoin.
Bon, après, il y a quand même le prix, parce que c'est que du composant quand même de qualité, c'est
oui,
que des marques.
Bien sûr.
Donc forcément, elles ont un coût.
Oui.
Mais enfin, ça va être guère plus cher qu'une machine... dire toute faite, hein. je sais pas si on a peut-être pas le droit de dire des marques, mais pas trop, on va éviter.
On peut, mais bon, non. Voilà.
Donc en fait, voilà ce qu'on trouve partout, voilà. Donc c'est déjà au niveau, les composants durent quand même relativement beaucoup plus longtemps, et on a plus des meilleures garanties, parce que quasiment tout le matériel, que ce soit une carte mère, un processeur, les alimentations, c'est garanti 3 ans, les barrettes de mémoire c'est 5 ans, quand elles ne sont pas garanties à vie, donc il y a quand même...
une qualité complètement ouais, différente et des garanties beaucoup plus longues.
Oui, oui, oui. Puis okay. Vous n'avez pas tous les logiciels, on va dire, que les constructeurs mettent à eux, ou vous imposent un petit peu, en vous mettant un petit peu tout et n'importe quoi. Donc là, vous retrouvez, vous avez un système d'exploitation après qui est installé, qui est propre, il n'y a pas de fioritures avec. Quoi.
Parfait. Vous vous déplacez également ?
Oui. Donc je fais du domicile, alors sur Nevers même, entre midi et 14h30, bon, ma petite coupure. Et puis sinon, bah, après ça va être le soir, après 18h30, après la fermeture.
Après la fermeture. Au niveau de votre clientèle, vous avez principalement des particuliers ?
Oui.
À quelle hauteur après ? Comment ça se répartit entre les particuliers et les professionnels ?
On va dire que j'ai à peu près 70% de particuliers. Et puis après, le reste, ça va être du pro. Alors de là, ça va plutôt des petites PME ou des petites entreprises, mais aussi pas mal d'associations, des écoles, des mairies, avec qui je travaille pas mal aussi.
Très bien. Donc, je rappelle que S2I Informatique, vous êtes un place Guy Coquille à Nevers, que on trouve chez vous, donc, tout type de PC, que vous assemblez essentiellement.
Oui.
L'activité gaming, si vous pouviez nous en parler un petit peu quand même, parce que c'est quelque chose qui se développe.
Oui, ou enfin, ça fait...
ça fait longtemps, oui.
Ça fait très longtemps que c'est
existe. Alors, c'est là où d'un coup, j'ai pris un coup de vieux. Bon, bah tant pis. Alors, ça fait longtemps que le gaming s'est développé. Mais je trouve que quand même, depuis quelques années, on trouve, ne serait-ce que quand on veut acheter un fauteuil de bureau, on a des gros fauteuils pour les gamers. Quand on veut acheter un clavier, on se retrouve avec des trucs qui ont de la lumière et tout. C'est quand même un univers qui s'est fortement développé ces dernières années.
Ah oui,
quand même
oui.
Pas de bêtises là.
Non, complètement. Bon.
Et au niveau de votre activité, ça correspond à peu près à quelle part de votre activité finalement ?
Le gaming ? Bah, c'est pas une grosse partie, mais enfin bon, je pense que ça arrive à 15-20% quand même.
Ah oui, c'est quand même pas négligeable.
Ouais, ouais.
Est-ce que quels sont les besoins spécifiques des gamers par rapport à leur matériel informatique ?
Ben en fait, c'est moi de toute façon les premières questions que je vais leur poser, c'est déjà à quel jeu ils jouent.
Pour d'accord.
Voir déjà ce que l'éditeur du jeu recommande pour jouer à ce jeu, et puis après l'expérience perso et compagnie.
Donc vous jouez aussi ?
J'ai joué, mais tant que je passe une heure sur un ordi quand je suis chez moi...
Ah oui, c'est l'impression d'être au travail.
Ouais, j'ai passé tellement de journées et de nuits que non, maintenant c'est avec l'âge c'est un petit peu fini. Bon oui. Après, ça détend toujours un petit peu, mais beaucoup, beaucoup moins qu'avant.
D'accord.
Donc bah après ouais c'est suivant en fait les jeux auxquels ils vont jouer. Il y a une chose aussi qui intervient beaucoup, c'est le budget qu'ils veulent mettre.
Mm-hmm.
Parce que on n'a pas rien sans rien non plus. Donc forcément on veut quelque chose de hyper puissant avec une belle carte graphique.
Ça coûte un peu.
Ouais, ça coûte un peu au bout.
D'accord.
Après ce qui est bien c'est que c'est évolutif, on peut faire ce qu'on veut quoi.
Oui. On peut commencer sur quelque chose de médium,
ouais,
on va dire, en termes de...
Ouais, il faut déjà privilégier la base, Oui. Voilà, carte mère, processeur, mémoire. Et puis après, on peut... une carte graphique, ça se revend très très bien d'occasion, surtout une carte graphique de jeu, et ce qui permet d'avoir un petit pécule pour en racheter une plus grosse la fois d'après.
D'accord. Merci en tout cas pour ces précisions. Je vous propose, Franck Bougard, que nous passions vers une petite pause musicale avant de nous retrouver pour la seconde partie des rendez-vous de l'économie du territoire. Donc, nos auditeurs ont l'habitude, c'est vous qui choisissez ce que nous allons écouter. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
Une petite chanson de Massive Attack, Karma Coma.
J'aime beaucoup le petit avec Massive Attack. On se retrouve tout de suite, merci.
Les rendez-vous de l'écho du territoire, retour dans un instant.
To give, though lies say this love is best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're easy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. Though it sort of cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma.
Tout de suite, la suite.
Nous sommes de retour dans les rendez-vous de l'économie du territoire consacré à Franck Bougard qui dirige S2I Informatique. Ça va Franck, vous tenez le choc?
Pour l'instant ça va,
je ne vous ai pas traumatisé.
Non.
Bon, alors dans cette deuxième partie, on parle d'actualité et de l'actualité plus ou moins récente, mais dans le secteur de l'informatique, moi j'aimerais bien quand même qu'on évoque ce qui s'est passé depuis la Covid au niveau de l'impact, enfin ce qui, quel impact a eu la Covid sur votre activité, vos ventes, les besoins peut-être aussi des clients qui ont changé, parce qu'il me semble que beaucoup de gens se sont retrouvés avec leur ordinateur portable chez eux pendant quelques temps, et que depuis, même si on parle aujourd'hui de réduire le télétravail, il n'empêche que c'est resté dans les habitudes. Comment vous avez-vous ressenti cette période et son évolution jusqu'à nos jours?
On avait le droit d'ouvrir les magasins. Mmh. On était considéré un petit peu magasin, enfin commerce essentiel, oui. Parce qu'il fallait qu'on répare justement les ordinateurs qui tombaient en panne pour le télétravail. Après, c'est vrai qu'au niveau des tout ce qui était vente de produits, on va dire les PC, ça a fortement chuté. Puisque en fait les gens vraiment se déplaçaient uniquement pour faire réparer leur ordi, ou sinon après c'est moi qui passais les chercher chez eux, qui leur ramenais chez eux.
Ils n'avaient pas intégré que pour l'achat ils pouvaient se déplacer, c'est ce que vous êtes en train de nous dire?
Oui.
Donc l'achat s'est reporté comme sur bien d'autres produits, sur internet.
Ouais, c'est ça. Mm-hmm.
Qu'on ne citera pas, mais...
Non.
Est-ce que cette tendance se poursuit dans le temps sur votre secteur, ou est-ce que vous avez senti quand même qu'après la reprise, les gens ont repris l'habitude aussi de venir quand même vers vous pour l'achat, ou ça a vraiment été un virage?
Alors, on va dire déjà chez les jeunes, c'est ancré en eux, donc ça, ils vont préférer acheter sur ces enseignes-là. Déjà parce que c'est beaucoup moins cher, forcément, mm-hmm. un produit, ils l'achètent par palette, donc moi je l'achète à l'unité, donc on ne revend pas au même prix. Mais par contre, après, les jeunes, en fait, c'est plus la partie gaming. Des jeunes qui ne veulent pas monter leur PC eux-mêmes, qui ne savent pas, qui ont besoin de conseils. Après, pour tout le reste, en fait, ça va être plus... le plus gros de ma clientèle, ça va être de 40 jusqu'à 90 ans. Donc, ces gens-là, par contre, non, préfèrent acheter quand même en magasin. Ils sont revenus, ils ont été voir sur Internet, mais ils en sont revenus...
Ils ont besoin du contact,
ouais,
du conseil,
ouais, même avec les grandes surfaces. Hein, c'est,
oui.
Voilà, ils ont besoin un petit peu de l'appui derrière. En plus, moi, je leur prépare le PC. Quand je leur vends un PC, je leur prépare.
Oui.
Ils arrivent chez eux, ils n'ont plus qu'à le connecter sur Internet. Et je leur fais même leur installation d'imprimante à distance. Donc, ils n'ont vraiment pas grand-chose à faire. Donc, cette tranche d'âge-là préfère quand même revenir en magasin de plus en plus.
Ok. Pour les salariés qui sont restés sur beaucoup de télétravail, est-ce que vous avez senti que ce besoin justement d'avoir des conseils était peut-être plus prégnant qu'avant? Parce que, ou pas du tout, ça s'est pas ressenti?
Pour moi, ça s'est pas ressenti.
Ça s'est pas ressenti.
Non.
D'accord.
Enfin, plus qu'à l'heure actuelle, non.
Non. Plus du tout maintenant.
Du tout, non.
Bon, de toute façon, aujourd'hui, on voit bien quand même que le télétravail, même si c'est ancré, c'est quelque chose qui devient plus... Alors, je ne vais pas dire marginal, parce que c'est loin d'être le cas, mais le temps de télétravail est moindre qu'à une époque, et on est un peu dans tous les pays à réfléchir à ce que les gens reviennent au bureau, avec les pour et les contre, ce qui n'est pas le débat de ce jour, mais n'empêche que on peut comprendre aussi qu'on ait moins de besoins lié au télétravail. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact de l'inflation sur les ventes en matière informatique?
Alors c'est vrai que tous les matériaux précieux ont tellement augmenté en fait que tout en découle. Hein.
Oui, donc,
les prix flambent, que ce soit plus. Enfin, les prix flambent déjà par rapport à ça. Toutes ces marques qui ont des gros monopoles qui en profitent aussi. Parce que alors voilà, quand on n'a pas de concurrence, c'est facile, ou très peu.
C'est facile un petit peu
de mettre les prix qu'on veut.
Oui.
Donc, ça, c'est vrai que ça joue beaucoup. On a une sacrée inflation quand même en quelques années. Autant on a des choses qui sont bien redescendues, des composants qui sont beaucoup moins chers qu'avant, et d'autres où les prix flambent, quoi.
Et ça ne vous paraît pas toujours justifié par rapport à la rareté ou la difficulté d'approvisionnement.
Non.
C'est plus vraiment là une opportunité commerciale. Au niveau de, justement, ces éléments, ça a entraîné des achats différés ou des choix de matériel peut-être moins important que ce qu'on aurait voulu, justement. Comment les ménages se sont adaptés à cette inflation, à cette hausse des prix?
Alors, les ménages, je ne pourrais pas trop vous dire.
Non, mais par rapport à vos clients.
Ah, par rapport
pas de façon générale.
Bah, après, je ne sais pas, pour moi, je n'ai pas trouvé...
Ça n'a pas eu d'impact, ça fait partie quand même des achats que l'on ne diffère pas.
Ouais, non. Après aussi, sur le renouvellement de matériel informatique, on va dire, ils ont déjà de l'existant qui fonctionne.
Mm-hmm.
Quand ils veulent changer pour quelque chose de nouveau, des fois, on va reporter parce que,
qu'il y a un budget à respecter.
Voilà, il y a le budget à respecter, ou ils ont un imprévu ce mois-là, et puis... donc, c'est pas... Ils ont quelque chose qui fonctionne déjà, donc c'est pas...
Le secteur de l'informatique est un secteur qui a toujours été baigné par des innovations assez rapides. Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec nos auditeurs dans les innovations actuelles, dans ce qu'il y a de bien ou dans ce qu'il y a de moins bien parfois?
De ce qu'il y a de bien ou pas bien?
Dans tout ce qui est innovation informatique, processeurs et autres.
Oui, au niveau des processeurs, on a un nouveau vendeur de... Enfin, c'est pas eux qui les font, je crois qu'ils les font faire. Mais Nvidia, en fait, qui était le plus gros constructeur de GPU mondial, va faire du processeur de PC de bureau aussi. Qui dit PC de bureau, PC gaming, enfin tout. Donc en fait, ils vont faire une grosse concurrence à Intel et à AMD, qui étaient les principaux fondeurs, depuis des années, quoi, depuis le début même de l'informatique. Donc là, je crois que ça va bien faire du mal. Parce que Intel a perdu quasiment la moitié de son capital en un ou deux ans. Là. Enfin,
ce qui est énorme.
Oui, ce qui est énorme. AMD, qui était toujours en dessous Intel, donc pareil, ça commence à être un petit peu compliqué pour eux. Donc, d'après les derniers leaks de ce qu'on a entendu, nous, dans le milieu, les États auraient un petit peu demandé à Intel et AMD de fusionner, réfléchir à une fusion pour pouvoir contrer le gros monopole Nvidia.
Parce que là, on a un risque carrément de monopole. Bon, on n'en était pas loin avec AMD et puis Intel. Ouais, ils n'étaient que deux. Hein.
Oui, ils étaient que deux.
Donc là, il y a un troisième qui rebat les cartes et qui risque de tellement les rebattre qu'il pourrait se retrouver tout seul.
Déjà, c'est le plus gros vendeur c'est le plus gros vendeur de cartes graphiques.
D'accord.
Donc, parce qu'ils ont. C'est vrai qu'ils ont déjà des très bonnes cartes graphiques et en plus, c'est les précurseurs en fait à entrer de l'IA en fait dans leurs cartes graphiques.
Ah.
Donc,
on retrouve toujours l'IA quelque part en embuscade.
Ah, oui. Donc, ils ont une IA qui est beaucoup plus développée que chez AMD. Donc, forcément, déjà, ça joue pour que ce soit dans le jeu ou dans le même domaine, beaucoup dans le domaine professionnel.
Mm-hmm.
Et donc là, le fait, ne serait-ce que de ça, plus la fabrication de processeurs, de PC de bureau qu'ils ont annoncé, ça commence à faire
donc
peur.
Donc ça va chambouler un peu.
Ouais. Ça peut être autant intéressant, voir si du coup, au niveau de la concurrence, on aura peut-être des prix qui seront beaucoup plus accessibles,
mm-hmm.
comme ça peut être tout l'inverse.
C'est-à-dire que s'ils arrivent à éliminer leurs concurrents, ils seront en situation de monopole, ils feront comme ils voudront.
Oui, je pense qu'ils vont quand même d'arrêter des entreprises comme Intel, il y a encore un peu de boulot, mais bon,
donc,
on le verra peut-être pas nous. Mais...
On peut rester dans l'espoir que pour les consommateurs, finalement, ça peut être une bonne chose, parce que cette concurrence un peu féroce, peut aussi conduire à ce que les prix soient au plus juste, on va dire.
Oui. Donc, mais bon, c'est vraiment très très récent. Hein, donc
c'est une nouvelle guerre économique qui s'annonce.
Oui.
Au niveau de l'informatique.
En place, je pense que ça va encore.
Ça va swinguer un petit peu.
Oui.
On va le dire comme ça. Franck Bougard, je vous remercie en tout cas pour cet éclairage sur l'actualité économique de votre secteur d'activité. Je vous propose que nous marquions une nouvelle pause musicale avant de nous retrouver pour la dernière partie de l'émission. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on écoute cette fois-ci?
Quelque chose d'un petit peu plus mélodieux. On va écouter Hooverphonic avec la chanson Eden.
Eh bien, c'est très bien. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.
Les rendez-vous de l'écho du territoire. Retour dans un instant.
Les rendez-vous de l'économie du territoire consacré aujourd'hui à Franck Bougard qui dirige S2I Informatique. Merci encore Franck d'être parmi nous aujourd'hui. Pour cette troisième partie, j'ai commencé de façon plutôt traditionnelle. J'aimerais que vous nous disiez ce que vous rêviez de faire quand vous seriez grand, alors que vous étiez tout petit.
Quand j'étais tout petit... Je ne sais pas si j'avais vraiment quelque chose déjà en tête. Ah. Si, j'aurais bien voulu être égyptologue, mais...
Ah oui, alors égyptologue et l'informatique, on n'est quand même pas tout à fait sur le même domaine, malgré tout.
Non, non.
Donc vous rêviez d'être égyptologue.
Oui.
Vous étiez passionné par l'école ou pas?
On va dire jusqu'au CM2 après.
Jusqu'au CM2 et ensuite.
Ouais, non, après non, si 6e, 3e, ça s'est bien passé. Après c'est plus l'arrivée au lycée où, déjà je suis arrivé au lycée, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Mm-hmm. J'avais aucune idée en tête et puis il n'y avait pas non plus 50 000 secteurs ni d'activités par rapport aux diplômes qu'on pouvait obtenir dans le coin. Il y avait, je rêvais déjà à des écoles d'informatique, mais il n'y en avait pas une seule dans le coin, ça n'existait pas. Mm-hmm. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur, je crois que je me le suis payé avec l'argent de ma communion. Donc... Pardon. Et oui, j'avais un Excel Vision, un Excel Son, un truc où il fallait écrire un roman de codage pour arriver à un pauvre petit jeu qui mettait 10 minutes à se lancer. Et entre chaque séquence, on avait le temps d'aller boire un café. Voilà. Donc, mais bon, non, ça a été un petit peu le précurseur. Après, au collège, j'ai eu un prof qui m'a quitté à fond là-dedans. Un prof de maths et de sciences, donc il a monté une petite salle d'informatique qu'il a animée tous les mercredis et même les soirs après l'école, qui prenait de son temps pour nous apprendre. Donc là après on était sur des tout ce qui était des TO7, TO7 et TO9. Donc c'est pareil, ça m'a remis un petit peu le pied à l'étrier.
Il s'appelait comment ce professeur?
Monsieur Germain.
Voilà.
Donc, c'est un peu grâce à lui, en fait, on va dire, si aussi j'ai
comme
continué.
Comme quoi.
Ouais, puis après, les années sont succédées. Puis après, il y a eu toutes les sorties de l'époque, les Atari, les Amstrad, les Commodore, les Amiga, enfin, tout ça, quoi. Donc, c'était une période assez sympa. Et puis après, c'est un petit peu rentré dans la vie active et puis c'est passé de côté.
Votre premier métier, c'était quoi?
Mon premier métier, c'était gel coteur projecteur.
Ouh là là, il va falloir nous expliquer et décoder, hein, parce que on parlait de codage informatique tout à l'heure, mais moi j'ai pas le décodeur.
Ouais,
qu'est-ce que c'est?
Eh ben en fait, je travaillais dans une société à Guérigny qui s'appelle Noviplast, et en fait, je projetais en fait du gel code dans des moules. En fait, on faisait des déflecteurs de camions.
D'accord.
Donc dans un moule, voilà la peinture en fait qui apparaît à la sortie du moule. En fait, c'est du gel code, et moi je projetais. Donc je faisais ça. Et après j'étais aussi projeteur, aussi résine, pareil, dans la même entreprise.
D'accord.
Avant d'être un petit peu au moulage aussi, j'ai fait un petit peu tous les postes.
Et comment vous êtes arrivé à revenir à vos premiers amours finalement, à l'informatique?
En fait, on va dire qu'au bout de quelques années, voilà, Neuviplast, j'ai eu un petit, je sais plus comment on appelle ça.
Un coup de mou, un burn-out?
Ouais, un petit burn-out, ouais. J'ai perdu une amie très chère que j'avais rencontrée là-bas et c'était un petit peu dur de continuer. Et du coup, en fait, j'avais un ami qui m'a dit, tiens, moi je suis une école d'informatique, CCI Formation. Je dis, ah bon, et tout. Puis il me dit, ouais, c'est vachement bien. Et du coup, je me suis inscrit l'année d'après. Et parce que la session était déjà commencée. Et puis j'étais passé un petit examen là-bas. Et puis du coup, j'ai été pris avec une vingtaine d'autres personnes. Et du coup, j'ai fait mes, je sais plus combien on avait, 18 mois, je crois, un truc comme ça. Donc, pour obtenir le brevet de technicien spécialisé en micro-informatique et réseau. Donc,
Et ensuite?
Eh ben, ensuite, personne dans le coin, pas beaucoup de magasins.
C'est embêtant, ça.
Ouais, pas beaucoup de magasins, pas beaucoup de débouchés, vraiment dans la maintenance informatique.
Oui.
Donc, je suis reparti, à travailler. Là, j'étais dans l'injection plastique. Mm-hmm. Donc là, j'étais responsable des moules injection sur la maintenance. Et puis, Donc on était en sous-traitance dans une société de Cône. Et au bout de 3 ans, en fait, ils ont refait partir la société en Allemagne. Enfin, ils ont tout capoté. Et de là, j'ai dit, allez hop, ça va bien, je me mets à mon compte. Et en fait, quand j'étais justement à CCI Formation, j'ai eu un stage obligatoire. Forcément, on avait des stages. Et puis du coup, en fait, c'est là que j'ai trouvé, sur Nevers, j'ai pas trouvé de stage. Du coup, j'en ai trouvé un à Corbigny, une petite société qui s'appelait Nivernet, et qui était tenue par Frédéric Lévy, et puis, je sais plus, Monsieur Boucher, mais je ne me rappelle plus le prénom. Et du coup, j'ai été très bien accueilli. Fred, par la suite, est devenu un ami. Alors, il m'en a fait baver pendant mon stage, à bouffer du dos.
C'est comme ça que commencent les meilleures amitiés. Hein.
Ouais. Donc, non, il m'a mis, avant de faire toute réparation dans leur atelier, il m'a mis sur un PC et j'ai bouffé du dos pendant un mois. Je l'ai haï. Et puis après, du coup, quand la confiance était passée, du coup... j'ai pu commencer à réparer les premiers ordi à l'époque qui étaient en Windows 98. Enfin, c'était assez spécial, mais c'était sympa parce que je préférais largement cette époque-là où il fallait vraiment réfléchir pour arriver à réparer un PC, quoi. C'était quand même plus difficile que maintenant. Et puis, quand j'en ai reparlé, que je voulais me mettre à mon compte, et puis il m'a dit, si tu veux, je t'aide, parce qu'à cette époque-là, déjà, pour avoir des fournisseurs, il fallait vraiment pontrer patte blanche, quoi. Si on n'était pas du métier, c'était pas facile. Donc, il s'est investi avec moi, il m'a apporté du matériel pour le magasin, donc je l'ai associé au magasin. Donc, il y a une petite part dans l'entreprise. Et puis, ça a commencé à guériner comme ça.
D'accord. Et alors la suite, vous la voyez comment ?
J'espère que il y aura de plus en plus de monde. Là, la première année entre
les travaux vont être bientôt finis.
Les travaux déjà, ça a pas été facile. Et puis c'est pareil, hein, même avec 15 ans de clientèle derrière, c'était un petit peu dur quand même d'arriver à refaire sa place à Nevers, quoi. Donc
un changement de lieu quand même, c'est pas anodin, hein, pour une entreprise.
Non. Donc heureusement que j'avais quand même mon carnet de clients, parce que sinon je pense que je ne sais pas si j'aurais arrivé à passer l'année. Donc maintenant tout va mieux, ça commence à être connu, ça commence à partir, donc j'espère que ça continuera pendant encore très longtemps. Et puis comme j'aime ce que je fais, je pense
pas d'inquiétude là-dessus.
Non, pas trop.
Une envie en particulier?
Peut-être développer encore plus, faire connaître encore plus la partie gaming, parce que c'est un truc vraiment que j'adore. Donc, comme je fais aussi du custom et compagnie, après le custom, ça coûte très très cher, donc c'est pour un public très averti.
Voilà,
on va dire.
C'est pas pour tout le monde.
Non, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des trucs super sympas à faire.
Donc encore des projets plein la tête.
Oui.
Merci Franck Bougard d'avoir été l'invité de ce rendez-vous de l'économie du territoire.
Merci à vous de m'avoir invité.
Merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Au revoir.
Chaque mardi, retrouvez en exclusivité sur NVS Radio un acteur économique de notre territoire. Les rendez-vous de l'économie du territoire, c'est tous les mardis à 19h sur NVS Radio.